C'était le mercredi 21 février, autour de 19h19, au Recanto, une soirée à l'initiative de l'après. Mélanie Lopez-Burgos présente son livre « Féminisme et émancipation au Maroc » aux éditions Canaille. La conversation a déjà commencé quand d'autres personnes, toujours en retard, 19h19, mais n'ont aucune indication, s'installent. Mélanie Lopez-Burgos continue sa présentation.
Voilà, c'est vraiment cette émission-là qui m'a donné envie de véritablement partir, quoi. Et c'était évident. Et du coup, j'avais entendu, il y avait déjà quelque temps, j'avais entendu parler de Zelidja par un proche. Et du coup, tout ça a fait son chemin et du coup, ça aboutit sur cette volonté de partir et de mener ce projet, d'aller rencontrer des femmes et puis de les interroger sur leur perception de la situation des femmes, des femmes dans leur pays, de leur perception de la religion par rapport à leur volonté d'émancipation, à questionner même qu'est-ce que c'était que cette volonté d'émancipation, quelle forme de féminisme, si elles se revendiquaient de ce terme, les femmes que j'allais rencontrer, quel féminisme elles voulaient, quelles étaient les revendications qu'elles portaient et quelle était la forme de leur combat. Enfin, c'était toutes ces questions en fait que je me suis posée avant de partir. Et en fait, c'est accompagné de cette envie de voyager, quoi, qui m'ont à un moment poussé à créer le projet, à essayer de contacter des femmes, à essayer de voir qui est-ce que je pouvais rencontrer à ce moment-là, où est-ce que je pouvais aller, quelle était la situation un petit peu à ce moment-là pour les femmes au Maroc. Et du coup, après, j'ai pris mon billet et je suis partie. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que ma connaissance en fait de l'histoire, par exemple, du féminisme, de vraiment la situation du Maroc à ce moment-là n'était pas une connaissance. Disons que j'avais pas une connaissance très très développée sur toutes ces questions-là. En fait, j'arrivais avec un regard très comme un tableau un peu noir sur lequel il fallait tout construire, en fait, tout découvrir et tout comprendre, et je n'avais pas de connaissances en fait préalables construites par de la documentation, tout ça, que j'allais confronter à la réalité, enfin, et au discours des femmes que j'entends, enfin, j'allais entendre. J'ai vraiment tout découvert avec elles, en fait, avec leurs discours. Elles m'ont donné envie d'en savoir davantage sur des choses que j'ignorais totalement. Elles m'ont appris énormément de choses, et en fait c'est avec tout leur discours que qu'il y a quelque chose qui s'est construit. Et du coup ces discours là portés sur des sujets très différents selon en fait ce qui les touchait elles, ce qui les touchait personnellement, et en fait ça a été des rencontres où en fait cette l'idée c'était pas seulement de pouvoir schématiser, de pouvoir faire des lois générales, de dire bah du coup moi mon avis c'est de dire la religion c'est un ennemi de l'émancipation, ou de dire au Maroc elles en sont là. Enfin, c'était vraiment une volonté de comprendre, en fait, et c'était ça le début de tout. Et du coup, de les écouter vraiment dans la complexité de leurs idées, dans la complexité de leur situation, et de là essayer de voir comment tout ça créait un même si en fait je peux pas prétendre, enfin je pouvais pas prétendre rencontrer suffisamment de monde pour, enfin il y avait aucune prétention sociologique à cette étude là, mais c'était vraiment et cette volonté là de grâce à ces femmes de dessiner quelque chose de la situation et du féminisme et du combat qu'elles menaient. Et du coup ce qui est assez particulier, enfin pas particulier, mais ce qui m'a moi dans un premier temps ce que je voulais faire absolument, c'était aussi rencontrer des jeunes femmes, parce que des femmes qui avaient quasiment mon âge en fait, et qui avaient une façon de voir leur lutte, leur situation, etc., que je pouvais enfin plus facilement confronter à la mienne aussi, et du coup avoir un échange qui serait de jeunesse quoi, qui se rencontrent et voilà. Et donc c'était les jeunes femmes, et ce que j'ai noté, c'est que parmi les discours des femmes que j'ai rencontrées, il y avait des grandes différences en fait. Il y avait des perceptions très différentes. Par exemple, il y a une des premières étudiantes que j'ai rencontrées qui s'appelait Rim. Et Rim, en fait, c'était une, c'est toujours une jeune femme qui a une vision de la religion, de la religion qui est en totale adéquation avec sa volonté d'émancipation. Mais elle, pour elle, c'est un faux problème qui est posé quand on oppose émancipation et religion. Et par exemple, si on prend la question du voile, par exemple, pour elle, c'était vraiment une soumission, mais au Seigneur, en fait. Il n'y avait pas de question de soumission à l'homme ou quelconque forme d'oppression par cet objet-là. Et c'était véritablement pour elle... Un faux problème en fait d'opposer de retourner enfin d'opposer émancipation et religion. Et en fait, au-delà de ça, elle me disait que dans la société marocaine, elle n'avait pas le sentiment d'être discriminée. Alors du coup, c'est évidemment à mettre en perspective avec peut-être le milieu dans lequel elle se trouvait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle fait partie d'une famille qui l'a amenée vers les études, et elle côtoyait un milieu universitaire, tout ça. Donc c'est à prendre en compte quand on entend des propos pareils. Parce que évidemment, après je vais vous en parler, d'autres femmes qui ne tenaient absolument pas les mêmes propos, les mêmes propos du tout. Et du coup... voilà, elle personnellement dans son parcours de vie, elle me disait que elle avait dû surmonter aucun obstacle supplémentaire parce qu'elle était femme en fait, et par rapport à aux obstacles qu'aurait pu rencontrer une personne de sexe opposé de son âge. Elle n'avait pas l'impression d'être discriminée. Par contre, ce qu'elle notait, et qui à mon avis qui montre quand même elle n'était pas non plus à penser que la situation était parfaite, parce qu'elle était elle-même confrontée à des problèmes et des tabous, par exemple, où elle m'a raconté que lorsqu'elle était à l'université, elle a voulu faire une rencontre entre étudiants sur le sujet des mères célibataires. Alors, les mères célibataires, à ce moment-là, donc, elle m'a fait... Enfin, j'ai découvert avec elle ce que c'était que les mères... Enfin, le problème des mères célibataires. Et en fait, c'est des femmes qui ont des enfants hors mariage. Et en fait, leur situation est une situation qui n'est absolument pas reconnue, qui est considérée socialement comme... une déviance en fait, et elles sont exclues, rejetées totalement de la société. Elles ne bénéficient d'aucune aide, elles n'ont souvent pas d'activité et se retrouvent dans des situations de précarité très 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 importantes et avec aucune possibilité d'aide et voilà. Donc vraiment, elles vivent une situation d'exclusion et donc Rim, donc l'étudiante dont je vous parlais, m'avait dit que quand elle était à l'université, l'université, elle avait voulu évoquer cette question-là parce que c'est encore un grand tabou dans la société marocaine et que sur ce sujet, les langues peinent véritablement à se délier on ne traite pas de ce sujet-là. Et en fait, ce qui s'est passé, et un obstacle très concret qu'elle a rencontré, c'est qu'à l'université, on a organisé une mascarade pour qu'elle, finalement, elle n'ait ni sale, elle n'ait plus rien du tout, alors qu'on lui avait promis que ça allait se faire, que la rencontre et la discussion qu'elle voulait amener sur le sujet allait pouvoir avoir lieu au sein de l'université. Ils ont empêché tout ça sous prétexte qu'en fait, il y avait des groupes dans l'université qui seraient opposés à ça, à une discussion sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet très controversé. Et du coup, ils voulaient bloquer absolument toute forme de conversation. Elle remarquait quand même que elle-même se battait pour ça. Elle s'est investie là-dessus. Mais personnellement, en fait, elle ne voyait pas de réels problèmes en fait dans son parcours de vie et pour son émancipation au Maroc. Et puis à côté de ça, en fait, à peu près du même âge, j'ai rencontré Shaïma. Et Shaïma, c'était une jeune femme qui a une formule qui est dans le livre et qui m'avait particulièrement touchée, parce que elle disait: moi, je me sens 50% féministe et 50% musulmane. Et là, pour le coup, renvoyer dos à dos religion et féminisme et du coup volonté, parce qu'elle traduisait le féminisme par une volonté d'émancipation. Et du coup, là, on avait un propos complètement antagoniste, en fait. Parce qu'elle, en fait, elle me racontait qu'elle n'arrivait pas, en tant que musulmane, à trouver une compatibilité avec sa volonté de s'émanciper, en fait. Et qu'au contraire, ça la retenait. Et qu'il fallait que tout le travail difficile qu'elle faisait, c'était d'essayer de lier les deux et de trouver un espèce de juste milieu, en fait, entre ces espèces comme un élastique qu'on tendrait des deux côtés et qu'on veut savoir où est-ce que comment on veut l'étirer et où est-ce qu'on, en fait, on trouve sa position médiante, quoi. Et du coup, elle avait une vision du coup de la religion, et parce qu'elle associait aussi la religion au fait d'être soumise à un homme. Et c'est ce qu'elle elle répétait beaucoup. Moi, je suis soumise à un homme, en fait, que ce soit mon père, que ce soit après mon mari, je dois demander l'autorisation. Et ça, c'est pour elle l'islam qui le voulait. Et du coup, c'était quelque chose de très enfermant, en fait, qu'elle décrivait quand elle parlait de la religion. Mais elle se disait: moi, je veux être une musulmane bien comme il faut. Et pour être une musulmane bien comme il faut, pour elle, il y avait cette nécessité d'obéir et de se soumettre à un homme. Donc du coup, là, on avait clairement une autre façon de voir les choses. Et en fait, en écoutant Shaïma, je m'étais dit: mais en fait, il y a une personne que j'avais rencontrée quelques temps plus tôt qui s'appelait Asma. Asma Lambrabet, donc je le dis peut-être pas très bien, mais et en fait c'est une chercheuse qui récupère en fait les hadiths du prophète, qui récupère le Coran et qui en propose une relecture féministe. Et du coup, je me suis dit que en fait dans le même pays que Shaïma, il y avait des femmes qui, au lieu de voir l'opposition, vouloir continuer à être musulmane et d'un autre côté vouloir s'émanciper parce que elle a acquis une liberté dont elle ne veut plus se priver, au lieu de voir ça, il y a des femmes qui au contraire essaient de faire des ponts entre la religion, les textes qui sont a priori dans les lectures déjà proposées et dans la manière de le rapport à la religion enfermant, comme pouvait le décrire Shaïma, et qui au contraire qui essaie en fait de récupérer ça et de trouver là-dedans un répertoire et une possibilité de s'émanciper, et donc de s'émanciper non plus à côté de la religion mais à travers la religion, en fait, et du coup de dire, et c'est un acte qui s'assume comme féministe, c'est de dire les textes, la religion a toujours été le fait des hommes. Les lectures faites des textes ont toujours été des lectures d'hommes. Et du coup, en tant que femme aujourd'hui, je vais me réapproprier ces textes. Et je vais faire que ces textes ne vont plus servir et ne vont plus être vus qu'à travers les yeux des hommes. Et donc, c'est un peu reprendre en main, en fait, la religion aussi, et se la réapproprier, et essayer, du coup, de trouver là-dedans une possibilité d'émancipation par des lectures. Et en fait, ce que faisait Asma, c'est un travail très, très, enfin, fastidieux, dans le sens où elle reprenait tous les hadiths, elle faisait des relectures absolument de tout aussi le Coran, tout ça, pour reproposer dans un centre de recherche, pour proposer de nouvelles lectures. Du coup, je voyais, en fait, que j'en ai parlé à ce moment-là à Shaima, et elle me disait ignorer, en fait, ce travail qui était fait, alors que c'était dans son pays, et que c'était des femmes qui avaient, en fait, souffert de la même chose, qui s'engageaient dans ce genre de recherche et qui essayaient de se réapproprier la religion. Donc, du coup, énormément de discours qui, en se croisant et en s'entremêlant, dessinaient un petit peu un état des lieux, et qui, des fois, avec toutes les contradictions qu'on peut y trouver et tout ça. Et puis après, il y a eu aussi des rencontres qui m'ont permis de mettre tout ça dans une perspective plus historique et plus de long terme, c'est-à-dire qu'à un moment, là, le combat des femmes s'ancre dans une histoire. Et que cette histoire, elle est importante pour comprendre, en fait, quelle est aujourd'hui la raison de ces revendications, des revendications et du type de combat que portent et mènent les femmes au Maroc. Et en fait, c'est en ça que l'histoire du féminisme au Maroc m'a particulièrement intéressée, parce que je trouvais que c'était essentiel pour comprendre ce qui se passait aujourd'hui, et que les femmes, quand elles parlaient, leurs propos étaient imbibés de cette histoire-là. Et du coup, c'était impossible de les comprendre sans avoir ces notions en tête, que je n'avais pas. Et du coup, questionnement sur le moment, des lacunes et des besoins de comprendre certaines choses, et a posteriori des recherches sur la question. Et du coup, ce qui m'avait particulièrement frappée à la rencontre d'une femme qui, en fait, travaille dans une association, une des plus anciennes associations féministes au Maroc. Donc, en fait, cette femme me racontait l'ampleur du mouvement qui a pu y avoir au Maroc depuis des décennies, et qui a eu une nébuleuse à un moment donné d'associations et de groupements et de collectifs qui luttaient pour des modifications, législative, de changer la loi, changer les codes, etc. Et puis, donc, ce type de travail-là est tout autant d'énergie consacrée à un travail sur le terrain pour venir en aide à des femmes qui, aujourd'hui et vraiment maintenant, subissent des agressions, sont dans des situations de précarité, de manque d'éducation, etc. Et en fait, pour revenir sur le côté, le combat plus pour un changement de la loi, et du coup... un combat législatif. Il y a vraiment depuis les années 80 une véritable lutte qui aboutit, en fait, dont l'objet dans un premier temps était la modification d'un code qui est un code au Maroc qui s'appelle le code du statut personnel, et qui pardon et en fait qui régit les relations familiales, conjugales, etc. Et en fait le combat en fait qui avait été mené à ce moment-là et qui était la priorité, c'était modifier ça parce qu'il était clairement discriminatoire et qu'il permettait un nombre de choses impressionnantes en défaveur de la femme. Et du coup, dans un premier temps, la lutte était de changer ce cadre-là, de changer ce code et de changer du coup la façon de régir les relations familiales et familiale, conjugale, que ce soit pour l'héritage, toutes ces questions-là qui en fait sont essentielles. Et ça aboutit à de réelles ça aboutit à de réelles victoires sans négliger en fait tout ce combat-là et en affirmant même que c'est un combat qui est assez exceptionnel dans son ampleur et dans les victoires qu'il a réussi à obtenir, il faut voir aussi que le combat que mènent les femmes actuellement n'en demeure pas moins compliqué et très très important et c'est ce qui m'a été permis de voir par les rencontres faites au Maroc, c'est qu'il y avait une nécessité aujourd'hui encore de lutter énormément et sur des plans très très différents pour accéder à nombre de changements nécessaires quoi. Et du coup voilà, et tout ça en fait s'est fait, toutes ces rencontres là se sont aussi faites dans le cadre d'un voyage et ça c'est quand même un point important parce que c'est ce qui a permis toutes ces rencontres et qui apporte quelque chose de une teinte un peu à toutes ces rencontres aussi, c'est qu'à côté je vivais avec ma vie sur le dos quoi, mon sac à dos un peu n'importe comment, je vadrouillais et j'avais jamais nulle part où dormir et je me retrouvais toujours à la dernière minute rencontrer une famille ou quelqu'un qui acceptait bien de m'accueillir et du coup il y a aussi tous les aléas du voyage et toutes ces rencontres en fait qui sont possibles aussi par le voyage en solitaire, c'est qu'à un moment on est tout seul dans un pays, on doit dormir, on doit se nourrir, les besoins vitaux quoi. Et en fait, on a besoin de l'autre, on a besoin des gens qui sont là. Et du coup, on a un rapport qui est complètement différent à l'autre en fait. Et du coup, c'est aussi par ce besoin de les rencontrer, et aussi ce besoin matériel j'ai besoin que vous m'hébergiez, tout ça, qu'on fait des rencontres complètement surprenantes et qui nous permettent de vivre des choses qu'on n'a pas l'occasion de vivre dans d'autres cadres en fait et qui nous permettent d'observer aussi beaucoup. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans des situations, dans des familles, on voit en fait l'arrière du décor. On a la possibilité de voir ce qui se passe sur la place publique, dans les espaces publics. Et puis aussi, on peut voir ce qui se passe dans le domaine privé, dans les familles, et que ce soit dans un milieu plus populaire, dans des familles plus aisées, tout ça permet, en observant tout ça, on arrive à avoir une vision et des questions qui du coup s'enrichissent en fait de ces expériences-là. Donc le voyage est tout de même le substrat de toute cette aventure quoi, voilà. Et du coup, je ne sais pas si à ce moment-là, vous voulez aussi me poser des questions, que ce ne soit pas forcément moi qui vous dise tout ça et qu'il n'y ait pas d'échange, parce que c'est à mon avis une bonne chose si on a des échanges. Donc si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à me les poser. C'est... je suis partie 45 jours, exactement 45 jours. Et du coup, pendant le voyage, j'ai pas mal bougé. J'ai fait je connaissais pas véritablement le Maroc avant de venir. Enfin, je me souviens, avant de partir, j'étais tellement excitée à l'idée de partir que j'avais acheté une carte quelques mois avant, que j'avais dépliée, que j'avais accrochée au-dessus de mon lit, et je la regardais. Elle était très détaillée, et je la regardais tous les jours, comme si j'allais connaître le Maroc en regardant la carte. Et j'avoue que ça ne m'a pas vraiment aidée à connaître le Maroc plus que ça. Mais par contre, du coup, ouais, j'avais dans l'idée de faire un voyage... et de passer par les grandes villes, en fait, parce que c'est à ce moment-là aussi, là où j'étais sûre de pouvoir trouver pour me loger, tout ça. Et parce que aussi, j'avais prévu de rencontrer des femmes. J'avais contacté des femmes avant de partir. Et la majorité des personnes que j'avais contactées vivaient dans les grandes villes. Donc du coup, j'avais fait mon tracé. J'avais une idée à plus ou moins précise du trajet que je voulais faire. Et après, évidemment... les aléas du voyage et les rencontres ont fait que ça a complètement changé. Et je ne suis pas du tout restée fidèle à l'idée que je m'étais faite du trajet et tout ça. Donc voilà.
Donc les personnes que tu as rencontrées, ce sont des personnes que tu avais repérées avant de France ou c'est des personnes que tu as rencontrées par le hasard du voyage ?
Ben, les deux. Précisément les deux. C'est-à-dire qu'en fait, avant de partir, j'avais contacté des femmes. Et généralement, les femmes qu'on arrive à contacter avant un départ, c'est des femmes qui travaillent activement, en fait, c'est-à-dire qui travaillent dans des associations, comme Asma, dont je vous parlais tout à l'heure, dans des centres de recherche. Et du coup, c'est des personnes qui ont une certaine conception aussi de la lutte, quoi. Et de leur combat s'inscrit dans un... c'est des fois professionnel aussi. Et donc, du coup, c'est vraiment un type de combat particulier que j'ai pu constater par les rencontres que j'ai faites de femmes que j'avais contactées avant de partir. Évidemment, toutes les femmes que j'avais contactées et que je pensais rencontrer sur place, je ne les ai pas rencontrées, pas toutes. Il y a toujours c'est la fin du Ramadan, il y avait beaucoup de déplacements, les gens rentraient dans leur famille, c'était une époque où il y avait beaucoup de mouvements au Maroc et c'est vrai que c'était pas la période la plus calme et du coup la plus favorable pour faire des rencontres. Mais du coup après il y a eu beaucoup de femmes que j'ai rencontrées directement en tapant à la porte dans des associations, par exemple je suis allée toquer et puis je me suis présentée un peu difficilement parce que j'étais pas journaliste, j'étais pas chercheuse, j'avais 17 ans, quoi, j'étais même pas majeure. Enfin, j'avais pas trop de légitimité à venir leur poser des questions, quoi. Et du coup, j'y allais un peu au culot et c'est assez surprenant parce que ça marchait, quoi. Ça marchait les femmes acceptaient de prendre un peu de temps pour échanger avec moi. Et après, il y a eu les rencontres de rue, quoi. Les rencontres en se baladant, en arrivant dans telle famille parce qu'elle a bien accepté de m'héberger, parce que j'avais été un moment dans une situation un peu compliquée. Et du coup, on fait des rencontres par ce biais-là, des rencontres parce qu'on se trompe on se trompe d'adresse et du coup on est complètement perdu et là on est obligé de demander aux gens autour de soi et typiquement j'ai un exemple en tête d'une femme qui m'avait dit qu'est-ce que tu cherches et en fait elle avait vu que j'étais perdue et finalement c'est une femme que j'ai fini par interroger, quoi. Et c'était une très belle rencontre. Donc il y a un peu de il y a des rencontres qui se sont faites parce que je les avais prévues et parce que j'avais vraiment provoqué la chose et d'autres rencontres qui ont été complètement hasardeuses, quoi. Enfin que voilà.
Oui. Une question sur le fond. Je suis surpris que tout à l'heure que tu l'as fait. Pour parler du fond. Je suis surpris que dans toutes les rencontres que tu as faites, tout le monde se positionnait par rapport à l'islam. Et à aucun moment, il n'y en a personne à dire il serait temps qu'on soit état laïque. Mm-hmm. Et on n'en parle plus, je fais ce que je veux. Quoi. Mm-hmm. Et ça, personne n'en a parlé. Ou tu n'as pas retranscrit, je ne sais pas.
Oui, au Maroc, il y a deux formes de féminisme. Il y a un féminisme qui se place d'emblée dans un registre laïque, c'est-à-dire que il se place en dehors de la religion. Et là, la revendication n'est pas on essaie de mettre un terme à l'état, l'état tel qu'il est, c'est-à-dire un état qui a pour religion officielle l'islam, mais c'est plutôt des revendications qui se placent en dehors de la religion, quoi. Et du coup, dans leur réflexion, il n'y a pas comme base la religion. Mais après, il y a un autre féminisme. Là, je parle de deux branches qui sont assez officielles, en fait. Après, on reparlera du discours des femmes qui, en effet, se placent souvent dans un discours directement religieux, quoi. Et d'un autre côté, donc, on a un féminisme qui utilise, en fait, la religion comme outil, en fait, comme outil d'émancipation. Et du coup, donc ça, c'est une chose. Et après, dans le discours des femmes, c'est vrai, en fait, que je n'ai jamais eu affaire à des propos, c'est peut-être, c'est le hasard certainement, mais à des propos qui remettaient en question le fait même de la religion qui remettait en cause le fait que voilà et c'est une position que c'est vrai qu'elles ont toutes tenu en fait de ne pas remettre en question le fait que le Maroc soit un État qui a pour religion officielle l'islam. Et voilà, l'importance de la religion n'était pas pointée du doigt et remise en question dans les propos. Et c'est vrai, très juste de le constater.
Du coup, j'ai une petite question complémentaire. Alors désolé, on est un petit peu arrivé en retard, je ne sais pas si vous l'avez évoqué. Mais dans le féminisme laïque, quelle est la place du féminisme à l'occidental? Est-ce que le féminisme laïque est lié à des femmes qui se sont émancipées dans d'autres pays, qui sont revenues avec les pratiques occidentales et qui essaient de l'imposer au Maroc? Ou est-ce que c'est encore autre chose? À l'intérieur, il y a encore plusieurs branches.
Mais c'est une très très bonne question parce qu'il y a tout un positionnement à avoir par rapport au féminisme occidental. Enfin, que les femmes se positionnent énormément par rapport au féminisme à l'occidental, entre guillemets. Et en fait, il y a même des... justement, Rim, dont je parlais au début, elle disait, mais moi, en fait, ce dont j'ai le plus souffert, c'était le discours des femmes qui se disaient féministes et qui lui disaient, mais en fait, toi, t'as le voile, en fait. Enfin, qu'est-ce que tu peux me parler d'émancipation? Toi, t'es une soumise. Tu peux pas être émancipée. Et du coup, elle disait que c'était des femmes qui se disaient féministes qui lui rétorquaient qu'en fait, elle pouvait pas elle-même être féministe et être émancipée. Et du coup, ce que je veux pointer du doigt par là, c'est le fait que le féminisme, le mot même de féminisme est complètement il vient de l'Occident pour beaucoup de femmes. Et c'est une imposition colonialiste, quoi, de dire, nous, femmes de l'Occident, nous avons compris ce que c'était que l'émancipation, et nous allons vous l'imposer à vous, femmes qui n'avaient pas encore compris, et du coup, une démarche très, très coloniale et d'imposition, quoi. Et pour, du coup, certaines femmes, le féminisme, c'est ça, en fait. C'est aussi cette imposition, et il me semble, après, comme je tiens à le préciser quand même, je n'ai pas fait une étude vraiment sociologique et du coup je ne prétends pas être que mes propos sont extrêmement justes, mais c'est du moins ce que j'ai pu comprendre de la situation. Et du coup il y a même un rejet en fait pour beaucoup du féminisme parce que il est complètement lié au à l'Occident et à l'imposition, exactement, et comme un résidu de colonisation, quoi. Voilà.
Ça, c'est plus fort avec le féminisme laïque, du coup.
Alors,
avec le féminisme...
Et mais du coup, pour répondre brièvement, donc dans le féminisme laïque, on va avoir un féminisme qui va reprendre des revendications qui se veulent universelles, c'est-à-dire qui ne vont pas être liées à un moment, à un contexte religieux, social, mais qui tendent à s'en émanciper et à avoir qui donc se veulent universelles, en fait, et donc ne vont pas partir de notamment de la religion, en fait, pour se développer, mais qui se situe justement en marge de celle-ci. Et du coup, c'est un féminisme qui peut être très vite associé à des revendications dites occidentale ou du moins reprise de l'Occident. Et c'est aussi peut-être la, enfin c'est une, un amalgame qui est fait par par les femmes aussi et par la société en fait qui fait cet amalgame là et qui n'est pas forcément une volonté de des féministes qui se disent laïques, c'est-à-dire que elles c'est pas vouloir reproduire précisément ce qui se fait en Occident, mais pour elles c'est une nécessité de développer leur féminisme en dehors de la religion aussi quoi. Donc du coup, on peut dire que dans le féminisme laïque, il y a des revendications qui recoupent celles qu'il y a en France et en Europe et ailleurs, quoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est un féminisme qui est là une parfaite comment dire une parfaite copie et qui est imposée en fait par l'Occident, voilà. Je sais pas si c'est très clair, parce que en fait il y a cette ambiguïté quoi, de un moment comment on perçoit ces revendications là en tant qu'elles sont aussi portées en Occident, et après de celles qui enfin des femmes qui revendiquent ça et qui elles le romantisme, parce que pour elle c'est une nécessité en fait de pas utiliser la religion dans leur combat.
Question, Mélanie.
Ouais.
Si.
Par rapport à ce que tu as pu observer justement, donc de ces différentes formes de féminisme, en mettant toutes les précautions, les bémols, tout ça, hein, est-ce que tu as noté des frontières qui seraient ville-campagne, qui seraient jeunes, moins jeunes, qui seraient niveau socio-culturel, etc., ou même celle de la ville, etc. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu des...
Oui.
Bah
c'est une très bonne question aussi. Alors, pour la question des générations, je trouve que... Ouais.
Très bien.
Désolée de ton écho. Pour la question des générations, c'est une question très importante parce qu'on parle beaucoup de générations dans le féminisme. Et que chaque génération, moi je parlais tout à l'heure de la génération qui a voulu modifier le code du statut personnel, donc ce fameux code qui régit les relations familiales, tout ça. Donc ça a été l'objet d'une certaine génération de féminisme. Et en fait, il y a peut-être une nouvelle génération de féminisme, et c'est difficile de la cerner, et peut-être de vraiment en faire le portrait, parce que c'est peut-être quelque chose qui se dessine maintenant et qui voilà, donc c'est délicat, et du coup se demander du coup qu'est-ce qui l'oppose et qu'est-ce qui permet de faire une frontière entre l'ancienne génération de féminisme et la nouvelle. Peut-être se poser la question déjà des outils qu'elles ont à disposition, de quelles sont si le combat, comme dans la génération dont je vous parlais qui date plutôt des années 80 et qui vraiment aboutit en 2004 au moment de la modification de ce code, là, à ce moment-là, la revendication, elle était sur un point de vue, sur le plan législatif, quoi. Et maintenant, où est-ce que se situe la revendication ? C'est aussi, du coup, l'objet des revendications, les outils qui sont à disposition et les manières de s'organiser. Et à ce sujet-là, du coup, je pense que c'est important de noter qu'en outils, on a... Par exemple, les réseaux sociaux qui est un outil important dont les femmes s'approprient énormément. Et là, je pense par exemple à Fedoua Misk, qui est une femme que j'ai rencontrée aussi et qui, elle, a proposé en fait un journal en ligne et qu'elle diffusait à travers les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, elle utilisait le net en fait comme outil pour la diffusion d'idées, pour faire bouger les lignes, pour permettre à des femmes partout dans le Maroc de collaborer, de parler, de parler aussi. Et ça, c'est pour moi très caractéristique de cette nouvelle génération féministe, de favoriser la prise de parole, parce que ce que disait Fedouamis, c'est que les situations, et ça va recouper du coup la deuxième frontière qu'on pourrait mettre entre ville et campagne, les situations sont très très différentes en fait entre les femmes au Maroc et du coup favoriser un dialogue entre eux et une possibilité de communiquer entre toutes ces femmes, c'est peut-être un enjeu très important, et de permettre à ces femmes de s'exprimer, d'avoir des lieux où s'exprimer. Et Fedouamis, en parallèle de cette activité-là, très personnellement, en fait, elle va très 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 régulièrement poster des choses sur Facebook. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait pour elle c'est un véritable outil de lutte en fait, parce que elle choque, elle ses commentaires, ses statuts, ils sont diffusés énormément en fait, elle par c'est des centaines de fois et même parfois milliers de fois partagées, etc. et du coup ça permet en fait une diffusion des idées et un moyen de faire de provoquer un dialogue sur des sujets qui sont a priori tabous, tels que la sexualité, qui est une question que elle met beaucoup en avant, parce que il y a tout un tabou autour de la sexualité qu'elle l'exprime très bien, quoi. Et du coup, voilà, je pense que sur le plan des outils, on a avec les réseaux sociaux notamment un nouvel outil qui est utilisé par beaucoup beaucoup de femmes dans leur lutte, quoi, et qui a toute son importance. Après, au niveau des objets, c'est-à-dire que maintenant, on peut dire, il y a eu la réforme du code du statut personnel, qui est en fait, c'est orienté vers, a évolué vers plus d'égalité. Du coup, est-ce que le combat est toujours législatif ? Entre autres, oui, parce que il n'y a pas encore dans ce code-là du statut personnel, il y a encore énormément de lacunes, énormément de choses qui manquent. Et qui sont encore à défendre et à acquérir. Mais il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. Et on peut se dire que le combat peut-être se fait sur d'autres plans aussi. Et du coup, à ce titre-là, je dirais qu'il y a un discours et une évolution à permettre aussi dans les mentalités qui, on le voit par certains scandales, de nombreux scandales en fait qui sont survenus ces quelques dernières années au sujet par exemple de tenues vestimentaires, de comportements avec, enfin par exemple de baisers, de choses comme ça qui montrent, enfin il y a eu des tels, enfin un raidissement en fait à ce sujet-là de la société civile qui en fait c'est peut-être a été moins tolérante sur ces questions, enfin est moins tolérante actuellement sur ces peut-être ces questions-là, et témoigne de plus de durcissement en fait sur cette question des mœurs, et peut-être qu'il y a tout un travail à faire à ce niveau-là et dont enfin beaucoup de femmes sont conscientes, et j'ai rencontré par exemple une femme qui me disait oui mais enfin le combat est aussi très compliqué aujourd'hui parce que il y a des personnes qui sont prêtes à mettre beaucoup beaucoup d'argent, que ce soit dans l'école, dans les moyens d'information, enfin que ce soit des chaînes télévisées, tout ça, pour aller vers ce radicalisme en fait, et vers un raidissement en fait de la société. Donc voilà, c'est du coup je pense des assez difficile en fait de caractériser véritablement cette nouvelle génération. Et après évidemment il y a une énorme différence entre ville et campagne. Les situations sont extrêmement différentes et moi j'ai eu plus l'occasion du coup d'enregistrer, d'interviewer des femmes qui étaient en ville et qui étaient par exemple des jeunes femmes qui étaient à l'université, mais aussi des femmes qui vivaient en milieu rural. Et les discours, les luttes ne sont absolument pas, ne sont pas les mêmes, parce que il y a par exemple dans le milieu rural un combat certain à mener pour un accès à l'éducation qui est peut-être moins vrai en ville où l'accès est déjà beaucoup plus permis et possible pour les femmes. Mais en revanche, il ne faut pas caricaturer, je pense. Et à ce titre-là, Fédoua Misk, dont je vous parlais tout à l'heure, a une vision qui me semble très juste. C'est qu'il ne faut pas se dire que les femmes dans le milieu rural sont absolument en retard ou elles sont absolument conservatrices. Elles n'ont aucune... Ce ne sont pas elles qui font avancer les choses et les opposer à des femmes en milieu urbain, éduquées, qui, elles, seraient les moteurs d'un changement et d'une émancipation, une émancipation des femmes. C'est une vision qui est assez caricaturale et, en fait, pas fidèle à la réalité, parce que ce que disait Fédoua Misk, c'est que dans le milieu rural... Il y a énormément, c'est là qu'elle a vu le plus le féminisme le plus combatif en fait, parce que c'est un combat de tous les jours, c'est un combat pour l'accès à pour avoir dans la famille, et du coup c'est vraiment une attitude, un comportement, un rapport au monde quoi, et donc c'est un féminisme qui est une volonté, une lutte pour l'émancipation qui est très 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 importante. Et elle disait que en fait c'est elle c'est là qu'elle avait rencontré les plus combatives en fait. Donc du coup il faut pas non plus caricaturer, mais c'est sûr que les préoccupations ne sont pas les mêmes et les combats ne sont pas les mêmes et les manières, la possibilité même de s'organiser n'est pas la même et donc les solutions qu'on peut apporter aussi. Donc c'est sûr qu'on peut dessiner comme ça des féminismes et plus que ça en fait, et c'est pour ça que j'avais aussi envie de parler d'émancipation des femmes, c'est que le féminisme c'est un mot qu'on peut mettre sur le combat de certaines femmes, mais que en plus les femmes ne s'en revendiquent pas forcément, mais c'est surtout en fait l'émancipation qu'il y a derrière et du coup pas forcément un moyen de lutter, pas le féminisme, mais l'émancipation de toutes les femmes et leurs moyens à elles de le faire, que ce soit au quotidien ou que ce soit à travers des associations, que ce soit par un combat législatif, que ce soit en faisant des coopératives pour permettre à des femmes d'avoir une activité, une indépendance financière, que ce soit par le microcrédit, qui est une chose qui est très importante et qui se développe pour permettre à des femmes de faire d'investir, d'avoir leur, par exemple leur terre, etc. Et voilà. Oui.
Justement, quand on parle du microcrédit, est-ce que vous avez pu approcher un peu, parce qu'il y a eu ces dernières années une lutte très importante pour dénoncer justement les excès du microcrédit. Mm-hmm. Et il y a eu une marche des femmes, il y a vraiment très important. Est-ce que vous avez pu rencontrer un peu des femmes qui avaient participé à ça?
Alors c'était une envie que j'avais avant de partir.
Encore maintenant, il y a des femmes qui sont emprisonnées parce qu'elles ne peuvent pas rembourser. Mmh. Donc il y a eu une espèce d'emprise de la part de systèmes de microcrédit qui relançait les femmes, à la fois l'artisanat, le petit commerce, pour leur faire du crédit, mais à des taux exorbitants, des taux du jour. Et finalement, elles ont dû. Elles ont eu beaucoup de mal à pouvoir sortir de ça. Et c'est pas terminé.
Alors, je suis... Pour vous répondre, moi, j'ai pas eu l'occasion. C'était une envie que j'avais avant de partir. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de...
Et puis, en Turquie, beaucoup en milieu rural.
Oui, bah parce que c'est aussi beaucoup en milieu rural que les femmes ont eu un moment recours au microcrédit. Et je pense que il y a eu un caractère libérateur de ce microcrédit dans une certaine mesure. Ça a permis à des femmes d'avoir la possibilité à un moment d'avoir leurs propres moyens de production, etc. Et d'un autre côté, et évidemment c'est extrêmement lié, et c'est une dérive qui est on le voit aujourd'hui, et que c'est clairement pas un moyen idéal en fait d'émancipation économique des femmes, parce que voilà, justement il y a toutes ces questions à un moment de profiter d'une situation de détresse, de dire il y a des femmes qui ont besoin d'avoir recours au crédit et de jouer de ça, enfin de jouer de cette situation de détresse pour imposer des taux d'intérêt exorbitants et laisser les femmes dans des situations de détresse encore plus importantes qu'avant. Donc je pense que il y avait peut-être au début quelque chose d'émancipateur dans cette possibilité d'accéder à un microcrédit, mais qui en fait était soumis à des dérives et à un usage, à mon avis, qui a eu un effet dévastateur finalement, quoi. Mais c'est vrai que c'est une question sur laquelle je peux pas véritablement me prononcer, parce que je n'ai pas de connaissances suffisantes et que j'ai pas eu l'occasion quand j'étais au Maroc d'approcher ce genre de phénomène. Donc voilà. Mais je pense que c'est une question très importante qui pose la question de savoir l'émancipation financière, enfin de poser la question de est-ce que l'émancipation passe par une émancipation économique, et du coup est-ce que c'est une première étape vers l'émancipation, est-ce que c'est le moyen unique, enfin je veux dire par là que une fois qu'on a gagné l'émancipation financière on a tout gagné. C'est des questions qui se posent aussi oui.
Justement, je connais un peu de quoi il s'agit.
Oui.
Deux fois au Forum social mondial à Tunis.
D'accord.
Deux fois il a eu lieu en Tunisie. Et alors justement, cette histoire du microcrédit, il y avait beaucoup de femmes à la tribune, notamment de Marocaines qui parlaient de la Moudawana.
Que du style, oui.
Alors justement, crédit, c'est quoi? C'est le principe même de l'aliénation. Crédit, c'est justement, vous savez, que toute la monnaie qu'on utilise, que ce soit le dinar, le dirham, ou l'euro, ou même le franc français à l'époque, c'est du crédit. C'est du crédit, donc qui est créé, c'est de la monnaie qui est créée par le crédit bancaire. Donc ça engendre une asymétrie socio-économique, c'est-à-dire avec des dominants et des dominés, qui est même d'ailleurs la source de l'esclavagisme et de la colonisation, donc l'endettement par la création monétaire. Et donc, c'est, par rapport à ce microcrédit, surtout au deuxième forum social mondial, il y a eu, autant au premier, il y avait quelques promoteurs de ces microcrédits, notamment pour l'émancipation des femmes. Et au deuxième, c'était tout l'inverse, il y avait des grands rassemblements qui démontaient complètement ce microcrédit, que ce soit au Maghreb, mais en Inde aussi, enfin dans tous les pays sous-développés. Hein, quand on dit sous-développés, c'est en fait empêcher d'être développé par justement cet endettement qui spolie les individus. Donc le problème, il n'est pas, la solution n'est pas du tout, c'est moi maintenant qui parle, parce que j'ai fait du chemin depuis, et j'ai trouvé du coup comment solutionner ce problème primordial, essentiel de l'émancipation des individus, quels qu'ils soient, pas seulement les femmes, mais de tout le monde, c'est justement de ne pas dépendre d'un individu pour créer la monnaie à sa place. À partir du moment où un individu, quel qu'il soit, a le monopole de créer la monnaie pour les autres, c'est-à-dire créer la monnaie par le crédit, forcément il y a une domination et qui engendre donc subordination et manipulation. Alors, vient d'être généré, créé depuis peu, donc une monnaie qui se crée par les individus qui se cooptent entre eux, et qui se crée donc tous les jours sur les comptes des individus. Et alors, c'est pas encore arrivé au Maroc, enfin aux oreilles des Marocains et des Marocaines, mais en tout cas, je m'affaire à faire cela, parce que c'est une monnaie qui se comprend, qui se choisit, et qui se crée au fur et à mesure du temps que l'on vit. inconditionnellement, quel que soit l'âge d'individu. Donc elle s'appelle La Monnaie Libre et elle se développe surtout à Toulouse. Voilà, enfin, en premier à Toulouse, on va dire.
Reste au Maroc.
Merci.
Reste au Maroc.
Ben c'est... Oui. Alors, il y a plusieurs questions. Mais du coup...
Peut-être qu'on se déporte tout sur les femmes, je ne sais pas, aussi du point de vue au Maroc, est-ce qu'il y a, si tu as pu rencontrer par le voyage, des femmes qui aidaient, qui étaient à l'écoute des femmes et qui mettaient en place et qui aidaient justement leur émancipation et qui prennent en compte leur vision.
Alors, c'est une question qui même, je trouve, a une importance très, très... c'est une question très importante, même dans le combat féministe en général, et en France aussi, de savoir quelle est la position des hommes, comment les hommes peuvent contribuer à ça. Est-ce qu'ils sont moteurs de changement, et est-ce qu'ils sont accompagnateurs dans la lutte? Est-ce qu'ils peuvent mener la lutte aussi? Enfin, c'est une question qui est très importante. Après... du coup, au Maroc, dans les associations dans lesquelles j'ai été, dans les centres dans lesquels j'ai été, c'était des femmes. Et c'était vraiment des femmes qui menaient leur mouvement et qui étaient actrices et qui étaient sur tous les fronts, en fait. Par exemple, qui allaient sur le terrain, qui allait par exemple éduquer quand c'était leur moyen à elles de permettre l'émancipation. Et du coup c'est moi j'ai vu beaucoup d'organisations entièrement féminines et j'ai rencontré énormément de femmes. Après, de là à dire que ça fonctionne uniquement comme ça, non, évidemment. J'ai entendu beaucoup d'hommes notamment se battre pour l'avortement. Il y a énormément, on pourrait dire, d'alliés à la lutte féministe qui prennent à cœur des sujets très très importants et notamment des médecins qui aujourd'hui défendent et veulent légaliser au détriment des fois de leur vie et en encourant énormément de risques, veulent légaliser l'avortement. Donc il y a évidemment des hommes qui soutiennent énormément le combat des femmes. Et c'est aussi ce qui transparaît de certains discours. C'est un moment des femmes qui ont la possibilité de mener des combats dans lesquels elles sont constamment exposées, qui sont très rudes psychologiquement, parce que il y a énormément de réactions face à certains combats qui sont menés par les femmes et pour les femmes, et du coup il y a derrière énormément de soutien aussi dans certains cas, hein, je dis pas dans tous, mais des hommes qui soutiennent la lutte, quoi. Donc je pense que en effet c'est la volonté d'émancipation des femmes n'est pas uniquement l'affaire des femmes, enfin c'est pas, il n'y a pas qu'elles qui le défendent et qui œuvrent pour, mais quand même dans toutes les associations et autres que j'ai pu rencontrer, c'était volontairement que des femmes.